Paris, livre 5, chapitre 1. Guillaume voulut assister à l'exécution de Salva, et Pierre, inquiet de n'avoir pu l'en détourner, resta le soir à Montmartre pour s'y rendre avec lui. Autrefois, lorsqu'il accompagnait l'abbé Rose dans ses visites de charité au travers du quartier de Charonne, il avait su que, d'une maison où habitait le député socialiste, Meige, située à l'angle de la rue Merlin, on voyait la guillotine. Il s'était donc offert comme guide. Et l'exécution devant avoir lieu au jour légal, vers 4h30 du matin, en ces premiers jours clairs de mai, les deux frères ne se couchèrent pas, veillèrent dans le vaste atelier, à demi ensommeillés, n'échangeant que de rares paroles. Puis, à 2h, ils partirent. La nuit était d'une paix, d'une clarté admirable. Dans le vaste ciel pur, la lune pleine avait un éclat de lampe d'argent. Et sur Paris endormi, déroulant son immensité vague, elle laissait pleuvoir à l'infini sa calme lumière de rêve. On aurait dit l'évocation de la ville enchantée du sommeil, d'où ne montait plus un murmure dans l'anéantissement de la fatigue. Un lac de douceur et de sérénité la recouvrait, la berçait, assoupissant jusqu'au lever du soleil le grondement de son effort et le cri de sa souffrance. Tandis que là-bas, dans un faubourg écarté, on besognait obscurément, on suspendait un couperet pour tuer un homme. Rue Saint-Éleuthère, Pierre et Guillaume s'étaient arrêtés, regardant ce Paris d'oubli, vaporeux et tremblant, couché en un rayon de légende. Et, comme ils se retournaient, ils aperçurent la basilique du Sacré-Cœur, encore découronnée de son dôme, d'une masse colossale déjà, sous la pleine lune. Elle semblait agrandie par cette clarté nette et blanche qui accentuait les arêtes, en les détachant sur les grandes ombres noires. C'était, vu ainsi, sous le pâle ciel nocturne, une floraison monstrueuse, d'une provocation et d'une domination souveraine. Jamais encore, elle n'avait semblé à Guillaume si énorme, dominant Paris, même endormi, d'une royauté plus têtue et plus écrasante. Dans l'état d'esprit où il se trouvait, la sensation fut si forte, si blessante, qu'il ne put s'empêcher de dire tout haut « Ah, ils ont bien choisi leur emplacement. Et quelle stupidité de le leur avoir laissé prendre. Je ne connais pas de non-sens plus imbécile. Paris couronné, dominé par ce temple idolâtre, bâti à la glorification de l'absurde. Une telle impudence, un tel soufflet donné à la raison. Après tant de travail, tant de siècles de science et de lutte. Et cela, justement en face, au-dessus de notre grand Paris, la seule ville au monde qu'on n'aurait pas dû souiller de cette tache au front. À Lourdes, à Rome, cela s'explique. Mais à Paris, dans ce champ de l'intelligence, si profondément labouré, où pousse l'avenir, c'est la guerre déclarée, c'est la conquête espérée, affirmée insolemment. » D'habitude, il se montrait d'une belle tolérance de savant, pour qui les religions ne sont que des phénomènes sociaux. Même, il reconnaissait volontiers la grandeur ou la grâce des légendes catholiques. Mais la fameuse vision de Marie à la coque, qui a donné lieu à l'institution du Sacré-Cœur, l'irritait, lui causait une sorte de dégoût physique. Il souffrait de cette poitrine ouverte et saignante de Jésus, du cœur énorme que la sainte avait vu battre au fond de la plaie, dans lequel Jésus avait mis l'autre, le petit cœur de femme, pour le rendre ensuite tout gonflé et brûlant d'amour. Quelle matérialité basse et répugnante! Quel étal de boucherie avec les viscères, les muscles, le sang! Et il était outré surtout de la gravure qui représentait cette horreur, qu'il rencontrait partout à sa porte, chez les marchands d'objets religieux, enluminés violemment, telle qu'une planche d'anatomie naïve, avec du bleu, du jaune et du rouge. Pierre se taisait, regardait aussi la basilique, blanche de lune, surgissant des ténèbres, ainsi qu'un rêve géant de forteresse, chargé de foudroyer et de conquérir la ville assoupie à ses pieds. Il avait souffert d'elle dans les derniers temps où il y venait dire des messes, lorsqu'il se débattait encore en sa torture de prêtre incroyant. Et à son tour, il dit son ancien malaise. Le vœu national, ah, certes, oui, un vœu national de travail, de santé, de force et de relèvement. Mais ils ne l'entendent pas ainsi. Si la France a été frappée par la défaite, c'est qu'elle méritait d'être punie. Elle était coupable, elle doit aujourd'hui être repentante. De quoi ? De la Révolution, d'un siècle de libre examen et de science, de sa raison émancipée, de son œuvre d'initiative et de délivrance répandue aux quatre coins du monde. Voilà la vraie faute. Et c'est pour nous faire expier notre grande besogne. Toutes les vérités conquises, la connaissance élargie, la justice désormais prochaine, qu'ils ont bâti là cette borne géante, que Paris verra de toutes ses rues, et qu'il ne pourra voir sans se sentir méconnu et injurié dans son effort et dans sa gloire. Il avait, d'un geste large, montré Paris endormi dans le clair de lune, comme dans un drap d'argent, et il se remit en marche, suivi de son frère, tous les deux silencieux, descendant les pentes vers les rues noires et désertes encore. Jusqu'au boulevard extérieur, ils ne rencontrèrent pas une âme. Mais là, quelle que fût l'heure, la vie ne s'arrêtait guère, et les marchands de vin, les cafés-concerts, les bals n'étaient pas plutôt fermés que le vice et la misère jetés à la rue y continuaient leur existence nocturne. C'étaient ceux qui n'avaient point de logis, la basse prostitution en quête d'un grabat, les vagabonds couchant sur les bancs, les rôdeurs cherchant un bon coup. Grâce aux ténèbres complices, toute la vase des bas-fonds de Paris remontait à la surface, et toute la souffrance aussi. La chaussée vide était aux meurs de faim, sans pain et sans toit, n'ayant plus de place au grand jour, masse grouillante, confuse et désespérée, qui n'apparaissait que la nuit. Et quel spectre de l'absolu dénuement! Quelles apparitions de douleur et d'effroi! Quel gémissement de lointaine agonie! Dans le Paris de ce matin-là, où l'on devait, à l'aube, guillotiner un homme, un de ceux-là, un pauvre et un souffrant. Comme Guillaume et Pierre allaient descendre par la rue des Martyrs, le premier aperçut, sur un banc, un vieillard couché, dont les pieds nus sortaient d'immondes souliers béants, et d'un geste muet, il le montra. Puis, à quelques pas, ce fut Pierre qui, du même geste, indiqua, terré dans l'angle d'une porte, une fille en loques, dormant la bouche ouverte. Ils n'avaient point besoin de se dire tout haut quelle pitié et quelle colère soulevait leur cœur. De loin en loin, des agents qui passaient lentement, deux par deux, secouaient les misérables, les forçaient de se remettre debout et de marcher encore. D'autres fois, s'ils les trouvaient louches ou désobéissants, ils les emmenaient au poste. Et c'était la rancune, la contagion des maisons centrales, s'ajoutant à la misère chez ces déshérités, faisant souvent d'un simple vagabond un voleur ou un assassin. Rue des Martyrs, rue du Faubourg Montmartre, la population nocturne changeait, et les deux frères ne rencontrèrent plus que des noctambules attardés, des femmes rasant les maisons, des hommes et des filles qui se rouaient de coups. Puis, sur les grands boulevards, ce furent des sorties de cercle, des messieurs blêmes allumant des cigares, au seuil de hautes maisons noires, dont les fenêtres de tout un étage flambaient seules dans la nuit. Une dame en grande toilette, en manteau de bal, s'en allait doucement à pied avec une amie. Quelques fiacres nonchalants circulaient encore. D'autres voitures stationnaient, depuis des heures, comme mortes, le cocher et le cheval endormis. Et à mesure que les boulevards défilaient, le boulevard Bonne Nouvelle, après le boulevard Poissonnière, et les autres, le boulevard Saint-Denis, le boulevard Saint-Martin, jusqu'à la place de la République, la misère et la souffrance recommençaient, s'aggravaient. Des abandonnés et des affamés, tout le déchet humain poussé à la rue et à la nuit. Tandis que, déjà, l'armée des balayeurs apparaissait pour enlever les ordures de la veille et faire que Paris, se retrouvant en toilette convenable, dès l'aurore, n'eût pas à rougir de tant d'immondices et de tant d'horreurs entassées en un jour. Mais surtout, lorsqu'ils eurent suivi le boulevard Voltaire et qu'ils approchèrent des quartiers de la Roquette et de Charonne, les deux frères sentirent bien qu'ils rentraient en un milieu de travail où le pain manquait souvent, où la vie était une douleur. Et Pierre se retrouvait là, chez lui, car il n'était pas une de ces longues rues populeuses qu'il n'eût jadis parcourues 100 fois avec le bon abbé Rose, visitant les désespérés, portant des aumônes, ramassant les petits tombés au ruisseau. Aussi était-ce en lui toute une évocation effroyable, tant de drames auxquels il avait assisté, tant de cris, de larmes et de sang, les pères, les mères, les enfants en tas mourant de besoin, de saleté et d'abandon. Un enfer social où il avait fini par laisser la dernière espérance, sanglotant lui-même, s'enfuyant, convaincu désormais que la charité était une simple distraction de riches, illusoire, inutile. Et cette sensation lui revenait, à cette heure matinale, dans le frisson de son attente, avec une intensité extraordinaire, en revoyant le quartier aussi douloureux, aussi foudroyé, voué à l'éternelle détresse. Là, au fond de ce taudis, ce vieil homme que l'abbé Rose avait ranimé un soir, n'était-il pas mort de faim la veille? Cette fillette que lui-même avait un matin rapportée entre ses bras après la mort de ses parents, ne venait-il pas de la rencontrer, grandie, roulée au trottoir, hurlante sous le poing d'un souteneur? Ils étaient légion, les misérables qu'on ne pouvait sauver. Et ceux qui sans cesse naissaient à la misère comme on naît infirme, et ceux qui, de toutes parts, tombaient à cette mer de l'injustice humaine, le même océan depuis des siècles, qu'on s'efforce en vain d'épuiser et qui toujours s'élargit. Quel silence lourd, quelles ténèbres épaisses dans ces rues ouvrières, où il semble que le sommeil soit le bon compagnon de la mort. Et la faim rôde, le malheur se lamente, des formes spectrales indistinctes passent et se perdent au fond des ténèbres. À mesure que Guillaume et Pierre avançaient, ils se mêlaient à des groupes noirs, tout le troupeau des curieux en marche, tout un piétinement confus et passionné vers la guillotine. Cela ruisselait, venait de Paris entier, comme poussé par une fièvre brutale, un goût de la mort et du sang. Et malgré le sourd grondement de cette foule obscure, les rues pauvres restaient sombres, pas une fenêtre des façades ne s'éclairait. On n'entendait même pas le souffle des travailleurs, écrasés de fatigue, sur leur triste lit de misère, qu'ils ne devaient quitter que plus tard, au petit jour. En arrivant à la place Voltaire, Pierre, devant la cohue qui s'y bousculait déjà, comprit qu'il leur serait impossible de remonter la rue de la Roquette. D'ailleurs, cette rue était sûrement barrée. Il eut alors l'idée, pour gagner l'encoignure de la rue Merlin, d'aller prendre plus loin la rue de la Folie Regnault, qui tourne derrière la prison. Là, en effet, ils ne trouvèrent que désert et que ténèbres. La masse énorme de la prison, avec ses grands murs nus éclairés par la lune oblique, semblait tout un amas de pierres froides, mortes depuis des siècles. Puis, au bout, ils retombèrent dans la foule, un flot compact et pullulant, une agitation embrumée, où l'on ne distinguait que les taches pâles des visages. ils eurent grand-peine à gagner la maison que Meige habitait à l'angle de la rue Merlin. Mais les persiennes du logement que le député socialiste occupait au quatrième étage étaient hermétiquement closes, tandis que dans l'encadrement de toutes les autres fenêtres, grandes ouvertes, on voyait moutonner des têtes. Et en bas, la boutique du marchand de vin, ainsi que la salle du premier étage qui en dépendait, flambaient de gaz, bondés déjà de consommateurs, très bruyants, dans l'attente du spectacle. « Je n'ose monter frapper chez Meige, » dit Pierre. Guillaume se récria. « Non, non, je ne veux pas. Entrons toujours ici. Nous verrons bien si, du balcon, on distingue quelque chose. » La salle du premier étage avait un vaste balcon que des femmes et des messieurs envahissaient. Ils parvinrent pourtant à s'y glisser et ils restèrent là quelques minutes, regardant, tâchant de percer l'ombre au loin. Entre les deux prisons, la grande et la petite roquette, la rue montante s'élargissait. Il y avait là une sorte de place carrée que quatre massifs de platanes, plantés dans les terre-pleins des trottoirs, ombrageaient. Les constructions basses, les arbres chétifs, toute cette laideur pauvre semblait s'étendre au ras de terre, sous un ciel immense, où les étoiles renaissaient, derrière la lune déclinante. Et la place était absolument vide, on n'apercevait qu'une petite agitation vague là-bas. Tandis que deux cordons de garde maintenaient la foule, la repoussaient au fond de toutes les rues voisines. Il n'y avait de hautes maisons à cinq étages, d'un bout, qu'à l'amorce de la rue Saint-Maur, beaucoup trop éloignée, et de l'autre, qu'aux angles de la rue Merlin et de la rue de la Folie-Regnault, de sorte qu'il était à peu près impossible de rien distinguer de l'exécution, même des fenêtres les mieux situées. Quant aux curieux du pavé, ils ne voyaient que les dos des gardes, ce qui n'empêchait pas l'écrasement de cette marée humaine dont on entendait monter la clameur croissante. Cependant, grâce aux conversations des femmes qui se penchaient près d'eux, guettant là depuis longtemps déjà, les deux frères finirent par apercevoir quelque chose. Il était 3h30, on devait achever de monter la guillotine. Devant la prison, là-bas, sous les arbres, cette petite agitation vague, c'était les aides du bourreau qui attachaient le couperet. Une lanterne allait et venait lentement, cinq ou six ombres dansaient sur le sol. Et rien d'autre. La place était comme un grand trou de ténèbres, battu de tous côtés par le flot contenu de cette foule grondante qu'on ne voyait pas. Au-delà, il n'y avait plus que les boutiques brasillantes des marchands de vin qui luisaient pareils à des phares. Puis, aux alentours, le quartier de pauvreté et de travail dormait encore, les ateliers et les chantiers restaient noirs. Les hautes cheminées refroidies des usines n'avaient toujours pas leur panache de fumée. « Nous ne verrons rien, » dit Guillaume. Mais Pierre le fit taire. Il venait de reconnaître, dans un monsieur élégant accoudé près de lui, l'aimable député du Teil. Et il l'avait cru d'abord avec la petite princesse de Ars, qu'il pouvait bien amener à l'exécution, puisqu'il l'avait fait assister à la condamnation. Puis, il finit par comprendre que la jeune femme emmitouflée, serrée contre lui, était la belle Sylviane, au pur profil de vierge. D'ailleurs, elle ne se cachait guère, elle se mit à parler très haut, grise sans doute, de sorte que les deux frères furent vite renseignés. Duvillard, Duteil et d'autres amis soupaient avec elle lorsque, vers 1h du matin, au dessert, en apprenant qu'on allait exécuter Salva, elle avait eu le brusque caprice de voir ça. Vainement, Duvillard l'avait supplié, et comme cette fois, il était parti furieux, reculant devant le mauvais goût d'assister à l'exécution de l'homme qui avait voulu faire sauter son hôtel. Elle s'était pendue au bras de Duteil, en lui promettant tout ce qu'il voudrait s'il contentait son envie. très ennuyé, ayant l'horreur des vilains spectacles, d'autant plus méritoire qu'il avait refusé déjà d'accompagner la petite princesse. Il s'était résigné pourtant, dans le vif désir toujours déçu qu'il avait de Sylviane. « Il ne comprend pas qu'on s'amuse, » dit-elle en parlant du baron. « Pourtant, c'était gentil de venir. Bah, demain, vous le verrez à mes pieds. »«
Alors, » demanda Dutheil, « la paix est faite? Vous lui avez rendu ses droits de maître et seigneur depuis que votre engagement est signé à la comédie ?»
Elle se récria.
« Hein? Quoi? La paix? Rien du tout! Pas ça, entendez-vous? J'en ai fait le serment. Pas ça, tant que je n'aurai pas débuté. Le soir où je sortirai de scène, nous verrons. »
Tous deux riaient, et Dutheil, pour faire sa cour, lui conta avec quelle bonne grâce le nouveau ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, d'Auvergne, s'était empressé d'aplanir les difficultés qui avaient jusque-là fermé les portes de la comédie devant son caprice et devant les assauts désespérés de Duvillard. Un homme charmant, ce d'Auvergne, une main de velours, la grâce, la fleur même de ce ministère acclamé, dont le terrible Montferrand était la poigne de fer.
« Il a dit, ma belle amie, qu'une jolie fille était à sa place partout. »
Puis, comme flattée, elle se serrait contre lui. « Et c'est après-demain, cette fameuse reprise de Polyeucte où vous allez triompher. Nous irons tous vous applaudir. »
« Oui, après-demain, le soir justement du jour où le baron marie sa fille. Il en aura des émotions ce jour-là. »
« Tiens, c'est vrai, c'est ce jour-là que notre ami Gérard épouse mademoiselle Camille Duvillard. On s'écrasera à la Madeleine avant de s'écraser à la comédie. Et vous avez raison, quel battement de cœur, rue Godot de Mauroy !»
De nouveau, ils s'égayèrent, ils plaisantèrent sur le père, la mère, l'amant, la fille, avec des allusions d'une férocité, d'une crudité abominable, simplement pour rire et par drôlerie parisienne.
Puis, tout d'un coup, « Vous savez, mon petit Dutheil, je m'assomme, moi, ici. Je ne vois rien, et je veux être tout près pour bien voir. Vous allez me mener là-bas, tout près de leur machine. »
Cela le consterna, d'autant plus qu'à ce moment, elle aperçut Massot dans la rue, à la porte du marchand de vin, et qu'elle l'appela violemment du geste et de la voix. À la volée, une conversation s'engagea, du balcon au trottoir.
« N'est-ce pas, Massot, qu'un député force toutes les consignes et peut mener une dame où il veut ?»«
Jamais de la vie. Massot sait bien qu'un député doit être le premier à s'incliner devant la loi. »
À ce cri de Dutheil, le journaliste comprit qu'il ne voulait pas quitter le balcon.
« Il vous aurait fallu une invitation, madame. On vous aurait casé à une des fenêtres de la petite Roquette. Pas une femme n'est tolérée, d'ailleurs. Et ne vous plaignez pas, vous êtes très bien où vous êtes. » « Mais, mon petit Massot, je ne vois rien du tout. » « Vous en verrez toujours davantage que la princesse de Ars, dont je viens de rencontrer la voiture rue du Chemin Vert, et que les agents refusent de laisser avancer. »
Cette nouvelle remit Sylviane en gaieté, tandis que Dutheil frémissait du danger couru. Car sûrement, si Rosemonde l'apercevait avec une autre femme, elle lui ferait une scène désastreuse. Il eut une idée. Il fit servir une bouteille de champagne et des gâteaux à sa belle amie, comme il la nommait. Elle se plaignait de mourir de soif. Elle fut ravie d'achever de se griser, lorsque le garçon eut réussi à installer une petite table près d'elle, sur le balcon même. Dès lors, elle trouva cela très gentil, très crâne, de boire et de souper de nouveau, en attendant la mort de cet homme qu'on allait guillotiner là-bas. Guillaume et Pierre ne purent rester plus longtemps. Ce qu'ils entendaient, ce qu'ils voyaient,
les soulevait de dégoût. Peu à peu, l'ennui de l'attente avait transformé en consommateurs tous les curieux du balcon et de la salle voisine. Le garçon ne suffisait plus à servir des bocs, des vins fins, des biscuits, même des viandes froides. Il n'y avait là pourtant que des spectateurs bourgeois, des messieurs riches, le public élégant. Mais il faut bien tuer les heures lorsqu'elles sont longues. Et les rires montaient, les plaisanteries faciles et atroces, tout un vacarme fiévreux, exaspéré dans la fumée des cigares. En bas, quand les deux frères traversèrent la salle du rez-de-chaussée, ils y trouvèrent le même écrasement, le même tumulte braillard, aggravé par la tenue des grands gaillards en blouse qui buvaient du vin au litre sur le comptoir d'étain luisant comme de l'argent. Les petites tables aussi étaient occupées. La salle regorgeait d'un va-et-vient continu du menu peuple qui entrait désaltérer son impatience. Et quel peuple ! Toute l'écume, tout le vagabondage, tout ce qui traînait dès l'aube en quête du hasard hors du travail. Puis, sur le pavé, Guillaume et Pierre souffrirent davantage. Dans la cohue que maintenaient les gardes, il n'y avait plus que la boue remuée des bas-fonds, la prostitution et le crime, les meurtriers de demain qui venaient voir comment il fallait mourir. D'immondes filles en cheveux se mêlaient à des bandes de rôdeurs, courant au travers de la foule, hurlant des refrains obscènes. D'autres bandits, en groupe, causaient, se querellaient sur la façon glorieuse dont les guillotinés célèbres étaient morts. Et il y en avait un sur lequel tous s'entendaient, parlant de lui ainsi que d'un grand capitaine, d'un héros au grand courage immortel. C'étaient des bouts de phrases effroyables surpris au passage, des détails sur la guillotine, d'ignobles fanfaronnades, des saletés ruisselantes de sang. Et sur tout cela, une fièvre bestiale, un rut de la mort qui faisait délirer ce peuple, une hâte que la vie fraîche et rouge coula sous le couteau, pour la voir à terre, pour s'y tremper. Seul, à cette exécution qui n'était pas celle d'un assassin ordinaire, des hommes muets, aux yeux ardents, passaient, circulaient, dans une visible exaltation de foi, où l'on sentait grandir la folie contagieuse de la vengeance et du martyre.